Chapitre 35. Ces violences avaient fait un contrepoids au meurtre de Claudius, de sorte que, comme on le voit, Milon, apprenant le revirement qui se faisait en sa faveur, n'avait pas hésité à revenir à Rome. Une fois à Rome, il poursuivit sa candidature et fit distribuer publiquement à tous les citoyens qui voulurent les accepter 1000 as par tête, 35 francs 17 centimes de notre monnaie. Mais ces largesses n'eurent aucun résultat. Le meurtre de Claudius était entré trop profondément dans le cœur du peuple. Une haine furibonde contre Milon avait jailli de la blessure. Vainement, le tribun M. Cellius, Q. Hortensius, T. Cicéron, Marcellus, Caton et Faustus Sylla prirent sa défense. Rien ne put calmer l'effervescence soulevée contre lui. Chaque jour, les comices furent troublés par quelque nouvelle émeute. Enfin, ces troubles prirent un tel caractère de gravité qu'un senatus consulte ordonna à l'interroi, au tribun du peuple, ainsi qu'à Pompée, à qui, on se le rappelle, le peuple avait porté les faisceaux, de prendre garde que la République n'éprouvât aucun dommage. Jusqu'à quel point Pompée était-il étranger à ces troubles? C'est ce qu'il serait difficile de dire. Le fait est que ce fut à lui seul qu'ils profitèrent. Le 5 des calendes de mars, 23 février, Pompée fut, par l'interroi Servius Sulpicius, proclamé consul unique et prit à l'instant même possession de sa magistrature. Une fois au pouvoir, Pompée comprit que, pour maintenir son influence, il fallait à l'instant même rétablir la tranquillité. Or, par qui cette tranquillité était-elle troublée ? Par ceux qui demandaient la mise en jugement de Milon. En somme, Milon était-il coupable, ou du moins accusé d'avoir fait assassiner Claudius? Incontestablement. Claudius était-il citoyen romain? Incontestablement encore. Milon devait-il être poursuivi pour être puni s'il était reconnu coupable, acquitté s'il était reconnu innocent? Incontestablement toujours. Pompée résolut donc de mettre Milon en accusation, quoique Milon fût son homme, quoique en réalité, 3 ans auparavant, Milon eût été suscité par lui. En conséquence, 3 jours après son installation, il demanda un senatus consulte qui l'autorisa à établir 2 tribunaux exceptionnels, 2 espèces de cours prévotales qui pussent juger plus attentivement et plus sévèrement que les tribunaux ordinaires. C'était essayer de la dictature. Personne n'en fut dupe. Le tribun Cellius s'opposa de tout son pouvoir à l'érection de ces tribunaux exceptionnels. Mais Pompée, sentant qu'il avait pour lui tous ceux à qui il importait peu qu'il fît de la dictature, pourvu qu'il rendît la tranquillité à Rome, Pompée déclara que peu lui importait l'opposition des tribuns et que, si besoin était, il saurait défendre la République par les armes. Pauvre République! Elle avait, en effet, bien besoin d'être défendue. L'opposition du tribun fut étouffée par la pression des classes riches et aristocratiques. La loi demandée par Pompée passa. 2 tribunaux d'exception furent établis et 3 accusations furent portées contre les auteurs des troubles. L'une de violence, et dans celle-ci était compris le meurtre de Claudius et les incendies de la curie Hostilia et de la basilique Portia, l'autre de brigue, la 3e de captation de suffrage. Le peuple élu L. Domitius Aenobarbus, quésiteur, pour le tribunal de violence et de brigue, et A. Torquatus, pour le tribunal de captation de suffrage. Le quésiteur, comme l'indique son nom, était à la fois ce que sont chez nous le juge d'instruction et le procureur impérial. Ce fut l'aîné des Claudius, Appius Claudius, qui porta l'accusation de violence et de brigue. Voici l'accusation portée par Appius Claudius. Sous le 3e consulat de Cnaeus Pompée le Grand, seul consul, le 8 des ides d'avril, le 6 de notre mois d'avril à nous, devant les quésiteurs Domitius et Torquatus, Appius Claudius déclare qu'en vertu de la loi Pompeia sur la violence, il accuse T. Annius Milon, disant que le nommé Milon, le 3 des calendes de février dernier, 20 janvier, a fait assassiner Claudius dans la taverne de Coponius sur la voie Appienne. Il demande donc que, conformément à la loi Pompeia, T. Annius Milon soit condamné à l'interdiction de l'eau et du feu. C'était l'exil. On se souvient qu'un citoyen romain ne pouvait être condamné à mort. Domitius reçut les noms d'Appius Claudius comme accusateur et d'Annius Milon comme accusé et fixa la comparution au 6 des Ides d'avril, 8 avril. 10 jours étaient donc accordés à Milon pour préparer sa défense. L'audience, comme d'habitude, fut tenue sur le forum, au tribunal du prêteur, entre la voie sacrée et le canal. Elle commença dès la première heure du jour, c'est-à-dire à 6 heures du matin. On eût dit que personne ne s'était couché à Rome dans la nuit du 7 au 8 avril, tant la place était déjà encombrée de monde lorsque les premiers rayons du soleil parurent derrière les montagnes de la Sabine. Cette mer mouvante était montée pendant la nuit du pavé de la place aux marches des temples qui semblaient des gradins faits exprès pour recevoir des spectateurs. Et des marches des temples à leur fête, pas un toit qui ne fût couvert de curieux, ondulant comme des moissons aériennes. Il y avait sur la prison publique, sur les temples de la Fortune et de la Concorde, sur le Tabularium, sur les murailles du Capitole, sur la basilique de Paulus, sur la basilique Argentaria, sur l'arc de Janus, sur celui de Fabius, sur la Grécostase et jusque sur le mont Palatin. On comprend que les 3/4 de ces spectateurs ne pouvaient rien entendre dans le sens exact du mot. Mais pour les anciens Romains, comme pour les Italiens modernes, voir, c'était entendre. À 6h30 du matin, un héraut monta sur la tribune et annonça l'accusateur et l'accusé. En effet, presque au même instant, l'un et l'autre comparurent. Un murmure accueillit l'apparition de Milon, moins encore parce que c'était le meurtrier de Claudius qui apparaissait, mais parce que Milon, dédaignant les usages habituels, n'avait laissé croître ni sa barbe ni ses cheveux, croissance qui, au reste, pour les cheveux surtout, eût été peu visible en 10 jours, et parce qu'il portait une toge élégante au lieu d'une toge sale et déchirée, comme c'était la coutume en pareil cas. Il n'affectait point non plus cet air humble et soumis qu'à Rome l'accusé prenait devant ses juges. Ses parents et amis l'accompagnaient et faisaient, par leur maintien triste, par leur costume lacéré, un contraste complet avec lui. Il avait 6 défenseurs, à la tête desquels marchait Cicéron, l'orateur de la cause. L'accusateur, l'accusé et les défenseurs prirent leur place. Alors Domitius fit apporter de petites boules sur lesquelles se trouvaient inscrits les noms de tous les citoyens portés sur une liste dressée par Pompée. Il jeta toutes ces boules dans une corbeille et en tira 81 qui donnèrent 81 noms, c'est-à-dire le total des juges fixé par la loi Pompeia. Chaque juge, qui attendait à un endroit désigné tous ceux qui étaient portés sur la liste, allait, au fur et à mesure que son nom était appelé, prendre place dans l'hémicycle, à moins qu'il ne présentât une excuse pour se dispenser de juger. Le tribunal formé, le quaisiteur fit prêter serment au juge. Lui seul ne le prêta point, attendu qu'il n'était point juge prononçant jugement, mais instructionnaire, directeur des débats, rapporteur des votes et applicateur de la loi. D'habitude, les débats s'ouvraient par le plaidoyer de l'accusateur, puis venait l'audition des témoins produits par lui. Mais on était cette fois sous l'empire de la loi Pompeia qui veut que l'on commence par l'audition des témoins. Les témoins furent donc d'abord entendus. L'audition dura de 7h du matin jusqu'à 4h d'après-midi. Vers la 2e heure, le héraut annonça que les témoins avaient dit. La journée tout entière avait été prise par cette première formalité. La foule commençait à se retirer lorsque Miniflus s'élança à la tribune, s'écriant « Peuple, c'est demain que l'on prononce sur le sort de l'infâme Milon. Ferme tes tavernes et viens ici en masse pour empêcher que l'assassin n'échappe à une juste vengeance. » « Juge !» s'écria à son tour Cicéron. « Vous l'entendez ? Ces hommes, que Claudius nourrissait de brigandages et de rapines, on les invite à venir ici, demain, vous prescrire votre arrêt. Que cette menace qu'on a l'impudence de vous faire vous soit un avertissement de rendre pleine justice à un citoyen qui, pour le salut des honnêtes gens, a toujours bravé les bandits de toute espèce et les menaces quelles qu'elles fussent. » On se sépara au milieu du plus effroyable tumulte.